Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmeurs, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri.
Une émission pour vous, les agriculteurs, et cette semaine en particulier, les agricultrices.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires de toujours, la Banque Populaire et le groupe Agrica, et un nouveau partenaire juste pour cette semaine et on l'en remercie. Il s'agit de la société Lemken. Merci à vous, nos partenaires. Alors cette semaine, pour s'intéresser à un sujet comme la place des femmes en agriculture, j'avais bien sûr intérêt à respecter, comme on va dire, à minima la parité, surtout avec une émission dont le titre est « Les tontons farmeurs ». Mais... vous allez voir, carton plein ou presque, puisque j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine, tout d'abord, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, notamment. Hélène Cambou, responsable marché agri à la Banque Populaire. Élodie Dragon, qui élève des bovins en Ille-et-Vilaine. Jacqueline Cotier, agricultrice dans le Maine-et-Loire et présidente de la Commission nationale des agricultrices de la FNSEA. Mélanie Lacombe, de l'association Co-Farming, Marie-Laure Gauvin, donc cofondatrice d'AgriMind Lab, et Marie-Laure Eustache, responsable communication du think tank AgriDay. Mais où sont les hommes, dirait-on ? Et oui, il n'y en a qu'un, mais un vrai. J'accueille bien sûr Jean-Baptiste Vervy, un agriculteur 100% pur jus, venu de la Marne. Alors comment vont les cultures dans la Marne, notre agriculteur de l'émission ?
Il fait toujours aussi sec. Hein.
Et on récolte du maïs toujours ?
Ah ben oui, mais toujours de plus en plus sec.
Au fur et à mesure. Bon, alors Christiane Lambert, tout d'abord, félicitations. Une femme à la tête de la FNSEA, c'était déjà une première, mais depuis vendredi, être élue présidente du COPA, qui est l'équivalent, on va dire, mais à l'échelle européenne, là, je dis sacrée responsabilité, Christiane.
Oui, c'est un poste pour lequel j'ai beaucoup hésité. J'ai attendu un an avant de dire oui. Et puis mes collègues des différents pays européens m'ont poussé à me présenter. Et au regard des enjeux d'une part, du calendrier, de ce que nous défendons pour la souveraineté alimentaire, pour une certaine forme d'agriculture, sur les accords commerciaux, pour la reconnaissance de l'agriculture, je me suis dit, allez, je me jette à l'eau et je vais porter plus haut l'étendard des agriculteurs. Voilà, et toujours par conviction et avec l'envie d'être utile et puis aussi de contribuer, à faire mieux connaître l'importance de l'agriculture et tout ce que l'agriculture apporte à la société, à nos pays, à l'économie, etc.
Et la France est représentée comme cela à l'échelon européen. Alors bravo à nouveau, et puis maintenant on va passer à notre rubrique « Quelle est l'actu de la semaine qui t'a le plus énervé ?» Et c'est Mélanie qui a été énervée, mais par quelle actu Mélanie ?
Oui, par l'actu en fait qui est apparue dans le Figaro la semaine dernière. C'est une association en fait qui dénonce les résidus de pesticides dans des veines de Bordeaux qui sont certifiées HVE. Et en fait il y a un laboratoire qui est expert en la matière, c'est le laboratoire du Bernet. Qui se désolidarisent en fait de cette communication un peu trompeuse, parce que c'est vrai que eux ont noté une présence relativement basse des pesticides, c'est-à-dire entre 50 et 1000 fois inférieure à la limite autorisée. Mais en fait, l'association en question a fait le choix de juste parler du fait qu'il y avait des présences de pesticides, sans trop en dire plus. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu un genre d'escroquerie intellectuelle, on va dire, ou en tout cas une communication trompeuse, qui dévalorise encore une fois les agriculteurs qui font un peu plus attention sur toutes ces quantités de pesticides.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Mais vous savez, Christiane, et toutes nos invitées et notre invité, on ne fait pas que s'énerver dans cette émission. Au contraire, on fait des propositions, on a des idées, toutes simples qui permettent d'améliorer les choses. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans le cadre de la place de la femme dans l'agriculture, il est possible aujourd'hui de développer des choses qui pourraient aider les agriculteurs et les agricultrices à mieux vivre. Alors, on va démarrer par Marie-Laure. Marie-Laure, top chrono, une minute pour présenter ton idée pour améliorer l'existant.
Alors, moi, je me suis dit, moi, personnellement, quand je lis, je fais la liaison entre femmes et agriculture, je me dis, mais je vois des femmes qui traient les vaches, qui font des arrières-retours chez le concessionnaire, qui gèrent les courriers, la réception des messages, la compta, un peu l'impression de la petite main, on fait là où il y a besoin. Et puis, moi, je trouve que j'incarne ce rôle-là aussi, même si je ne suis pas agricultrice, j'ai un mari agriculteur. Et voilà, je m'occupe, par exemple, pendant la moisson, de conduire le tracteur. Je manie aussi en pyrole et je stocke. Ça, c'est quand même une petite originalité. Je fais un peu d'administratif, mais du coup, je me dis, mais pas de rôle de gestion là-dedans. Et je me dis, mais où est-ce que les femmes agricultrices occupent vraiment la zone de leadership? Alors, sans doute Jacqueline tout à l'heure et puis Élodie nous diront ça et j'espère vraiment. Et du coup, mon idée, c'est de créer un lieu de coworking, des lieux locaux qui pourraient réunir les agricultrices ou celles qui veulent devenir de façon à libérer tout leur potentiel, de prendre vraiment la place qu'elles ont envie de prendre, de pilotage, de décision, de sortir là où on pourrait spontanément les mettre. Quand je dis on, ça peut être le père, le frère, le mari, le modèle familial que ces femmes ont vu. Et donc, du coup, ces espaces de coworking pour se réunir, pour échanger, stimuler des idées, créer, rêver, se soutenir, et puis que les femmes aient vraiment toute leur place de chef d'entreprise.
Christiane, bonne ou mauvaise idée ?
Bonne idée, parce que c'est toujours important de regrouper les gens, de faire se rencontrer, qu'on ne se sente pas seul. J'ai toutefois le sentiment que les jeunes femmes aujourd'hui sont souvent à la tête d'un atelier, qui de poule pondeuse, qui d'une serre, qui de telle ou telle. Elles sont moins, j'allais dire confinées, elles sont moins dédiées à ces tâches administratives qui longtemps ont été le lot des femmes. D'ailleurs, on nous donnait le dossier formation ou le dossier social, MSA, dans les organisations. Il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, y compris qui conduisent le tracteur, qui sont sur les machines, mais souvent les femmes se brident elles-mêmes. Et dans les sociétés, quand ce sont des sociétés d'hommes, c'est vrai que les choses peuvent s'organiser aussi en spécialisant les hommes sur ces tâches-là, et les femmes annexent plus les tâches administratives. J'ajoute un point, quand on est mère de famille, c'est souvent plus compatible les tâches administratives et éduquer les enfants que le tracteur et s'occuper des enfants. Mais il y a quand même vachement de jeunes filles aujourd'hui qui prennent le manche, sont dans les caves, sont dans les serres, sont dans les bâtiments volailles, porcs, etc. En production porcine, on a énormément de femmes agricultrices, éleveuses et aussi chefs d'élevage, parce que vraie qualité maternelle reconnue, sens de l'observation, obstination, pugnacité sont des qualités reconnues par les employeurs, messieurs, de femmes salariées.
Bon, Mélanie, ton idée à proposer ?
Oui, alors moi, elle est moins joviale, on va dire. Moi, c'est plutôt, en fait, je pense que tout le monde a des exemples de son côté, mais c'est s'il y a un décès, en fait, dans l'exploitation, le chef d'exploitation, le mari, par exemple, c'est qu'il y a une véritable fragilité, en fait, pendant cette période. C'est toujours un peu compliqué de penser, pour la femme, à la gestion de l'entreprise, aux tâches quotidiennes, savoir, qui peut gérer. Et l'idée, en fait, ça serait ma proposition d'avoir une sorte d'assurance pérennité pour organiser en fait le pilotage de l'entreprise en cas de disparition accidentelle. C'est-à-dire encourager un peu à contractualiser de son vivant en fait la fin de vie du chef d'entreprise, et qu'on puisse sélectionner quelqu'un, une personne de confiance, qui puisse faire le transfert de compétences, de savoir-faire, au moins sur une période donnée, pour que la femme ou le mari puisse en fait pas tout le temps penser à ça et pouvoir un peu avoir du temps en fait pour reprendre l'exploitation, et qu'il y ait une assurance de prévoyance là-dessus.
Parce que c'est vrai qu'être agriculteur, c'est pas rien, il y a un lot de compétences qui sont importants, et dans cette période difficile que malheureusement beaucoup de personnes traversent, il faut être capable d'aller chercher ces compétences de façon territoriale, de façon proche. Christian Lambert, votre réaction ?
Moi, je suis très sensible à ça, parce que mon papa est décédé à 52 ans, sa mère avait le même âge. Et c'est vrai que donc un décès accidentel, brutal, ça laisse totalement désarmé. Et malgré tout, le lendemain matin, il faut aller traire les vaches, il faut s'occuper des animaux, il faut faire les foins, il faut faire les semis. Et c'est une charge de travail qui est très très forte à un moment où il y a une charge mentale extrêmement douloureuse. Et encore, nous étions deux sur l'exploitation, j'étais à côté de ma maman. Mais pour une femme qui se retrouve toute seule, c'est épouvantable. Et je trouve que c'est une super idée, elle est très humaine et elle correspond vraiment à quelque chose qui est un vrai besoin au moment où ça arrive. Malheureusement, il y a plus souvent d'accidents chez les hommes que chez les femmes dans les exploitations agricoles. Et c'est plus souvent des femmes qui se retrouvent veuves avec une difficulté en plus, tracteur, physique, gros travaux. Heureusement, il y a des bonnes relations de voisinage dans beaucoup de régions, des CUMA ou des groupes d'entraide. Mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Il ne faut pas y penser le matin du lendemain. C'est une super idée. Et vraiment avoir un référent ou quelqu'un à qui on dit « Bon, écoute, s'il m'arrive quelque chose, c'est sur toi que je pourrais compter ». Je trouve que c'est très, très bien.
Ouais. Et c'est paradoxal parce que cet ange gardien un peu qui va essayer de prendre le relais dans cette étape difficile, ça n'existe pas aujourd'hui.
Non, et je peux vous dire que, à titre personnel, quand je sillonne l'élevage aujourd'hui, là, avec toute la technique et la technicité des boîtiers, de la climatisation, de la distribution automatique, et moi là, je suis beaucoup plus perdue. Et souvent, je me dis, s'il arrive quelque chose à mon mari Thierry, je suis très mal pour faire fonctionner l'exploitation, moi toute seule, même avec nos deux salariés. Donc, c'est quelque chose qui nous traverse l'esprit assez souvent quand même.
Bon, on garde les deux idées qui ont été proposées par nos Tati Farmer, je ne sais pas comment on doit dire, de la semaine. Merci beaucoup à vous d'avoir bossé là-dessus. Merci Christiane, on vous libère car je sais que vous avez un rendez-vous qui suit. Merci ouais. Et puis encore félicitations.
Merci à vous Jean-Paul et c'est une très très bonne idée de faire des, je ne sais pas comment vous allez le dire au féminin, peut-être pas des Tata Farmer, mais voilà, vous allez trouver.
Bon, merci, bonne continuation et nous on continue sur le débat.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et vous pouvez aussi nous contacter avec le hashtag TTF comme Tonton Farmer, bien sûr, sur Twitter par exemple. Et puis comme ça, on peut relayer les questions en direct. Je les lis et je vous donne la parole comme ça directement. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, pour attaquer ce débat, bon, on dit souvent que un agriculteur sur quatre est une agricultrice, mais je crois que Jean-Baptiste, tu n'es pas tout à fait d'accord.
Merci. effectivement, il y a des chiffres qui disent effectivement que une exploitation agricole sur quatre est dirigée par une femme. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est quelle femme alors, dans le sens où est-ce que c'est des vrais chefs d'entreprise ou est-ce que et on le sait, les chiffres le présentent aussi, il y a des installations où parfois la femme qui arrive, le mari est en retraite, et la femme reste 4 ans avant de retraite dans l'installe pour améliorer la retraite. Ou alors, c'est l'épouse que l'on installe, ça fait une bonne occasion d'installer un jeune, et ça permet un petit agrandissement complémentaire sur l'entreprise, alors que cette même épouse, en fait, elle ne va pas forcément gérer la boutique. Donc, c'est quoi la part des vraies femmes chefs d'entreprise qui pilotent cette entreprise autant qu'un mec, hein, on va dire, pas l'exploitation, par rapport à ces chiffres-là.
Et oui, on vous l'avait dit, les tontons farmeurs, il n'y a pas de tabou qui réagit. Vous êtes d'accord ou pas, Jacqueline Cottier, par exemple?
Moi, je suis pas. Moi, je sais que tous ces chiffres-là, les 25%, ce sont bien quand même des installations d'agricultrices à part entière. Hein, elles ont le statut donc d'agricultrice. Après, c'est sûr qu'on a l'autre statut derrière, qui est le statut de conjoint collaborateur. Nous, on voudrait voir évoluer, c'est-à-dire limité dans le temps. C'est-à-dire que nous, ce que l'on veut, c'est un statut à part entière de chef d'exploitation. Enfin, tout, parce que bon, on sait qu'il y a des conséquences indéniables.
Ah, vous m'entendez ? Ah oui, on vous entend très bien.
Sur la retraite plus tard, enfin voilà. C'est un peu l'héritage de notre carrière professionnelle sur ça. Parce que maintenant, l'agricultrice, elle choisit le métier, contrairement à nos générations précédentes. Hein. Mmh. Elles ont choisi le métier, elles se sont formées pour. C'est des filles qui sont très déterminées. Et ben, il le faut. Hein. Je pense que oui. Et ça, je pense qu'on est de plus en plus visible, mais pas si on est. Comme disait Christiane, on a toujours tendance à s'effacer un peu ou sous-estimé.
Alors, hier, j'étais dans le Var, j'ai rencontré Marie de Prat. Alors, c'est une jeune viticultrice, elle a la pêche, elle en veut. Ils montent une super exploitation avec notamment, ils étaient déjà coopérateurs et puis maintenant, ils créent donc directement, ils deviennent vignerons parce qu'ils travaillent avec un cheval. Enfin, ils ont plein de choses innovantes. Et justement, je lui ai posé la question un peu de son quotidien. Écoutez.
Alors, en fait, j'ai pas Alors effectivement, voilà, il y a vraiment deux poids deux mesures. C'est-à-dire que quand vous êtes au volant d'un tracteur, c'est pas forcément bien vu, mais en même temps vous faites des grands signes, des grands bonjours, donc pourquoi pas. Après, moi, je travaille donc beaucoup aussi avec les chevaux et je trouve que ben, avoir cette touche féminine aussi, c'est pas mal parce qu'on a quand même beaucoup de finesse, de patience. Et de précision, les copains nous charrient souvent que les femmes font du meilleur travail que les hommes. Donc j'ai envie de le croire.
Ouais, elle défend bien quand même le plus apporté par le fait d'être une femme sur une exploitation. Comment vous réagissez ? Qui prend la parole ?
Ben moi, je peux. Je sais que toutes les installations d'agricultrices, c'est souvent des initiatives de diversification, de personnalisation de la production de l'exploitation, valeur ajoutée, et puis ça crée des liens aussi avec le consommateur. Je pense qu'on en a besoin, c'est faire le lien aussi avec ses voisins. Enfin, quand on vend nos produits, c'est là où on peut expliquer un petit peu notre façon de cultiver ou d'élever, et on a plus que jamais besoin de créer du lien, de la proximité.
Oui.
Alors, moi, ce que je vais rajouter, c'est qu'on a un métier qui est très polyvalent.
Oui.
Ça va de l'administratif à la production. Et je pense que c'est notre richesse. Et on ne le mesure pas assez. Ça nous fait évoluer. Qu'on progresse grâce à ça.
Alors, on va quitter le Var pour aller en Ille-et-Vilaine. Et on a la chance d'accueillir Élodie Dragon. Élodie, quel a été le facteur qui vous a engagée sur cette voie, cette aventure de devenir agricultrice? Racontez-nous.
Eh bien, moi, en fait, je voulais juste reprendre le travail de mes parents, grands-parents, et mettre en valeur nos terres, en fait, et montrer qu'on a des belles terres et on sait produire de belles choses. On est capable de le faire. Homme ou femme, on peut le faire. On doit être fier de notre métier, et ça, c'est pour ça que je me suis installée. C'était vraiment pour montrer qu'on peut le faire et qu'on peut être heureux et tout gérer.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées?
Le manque de en général, c'est le manque de confiance en soi. Qui Alors moi, je parle pour les femmes que j'ai, avec qui je travaille, avec qui je parle. C'est le manque de confiance en elles qu'il faut absolument améliorer.
Ça, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Oui, qui souhaitait rebondir?
Du coup, ça colle avec la proposition de Marie-Laure. Bon, alors, qui propose un espace de coworking, mais qui pourrait proposer finalement un endroit, un moment, pour justement se donner confiance en tant que chef d'entreprise féminine.
Et d'où il vient ce manque de confiance?
Elles se sont toujours effacées, comme ça a été dit tout à l'heure. Hein. Elles se sont souvent effacées derrière leur père, derrière leur mari, derrière leur frère. Je pense que c'est là où il faut qu'on leur dise non, vous êtes capable, vous n'êtes pas que fille d'eux ou femme d'eux, vous êtes agricultrice.
Oui, et moi, ce que je voudrais, là où je voudrais rebondir aussi, c'est tout à l'heure, Christiane Lambert soulignait voilà, les qualités féminines qui apportaient des plus à l'élevage. Par exemple, à l'élevage de porc, elle en parlait. Mais moi, ce que je voudrais aussi, pour moi, on est dans la zone de l'action et il y a aussi la place des femmes dans la zone de décision. Et là, c'est hyper important. Alors déjà, les agriculteurs, cette zone de décision qu'on appelle dans mon langage zone de leadership, des fois est bien désertée et on va laisser le pouvoir de décider au papa, aux aïeux, aux voisins, aux conseillers, aux banquiers, à l'expert comptable. Mais là, les femmes, ça peut être encore pire parce qu'il y a encore un niveau où il peut y avoir le père et dans une culture patriarcale. Alors peut-être qu'il y en a qui diront autrement et autre chose, mais je trouve qu'il y a encore un pas complémentaire de dire mais moi aussi je suis chef et moi aussi je prends part à la décision et moi aussi j'oriente ma ferme comme bon me semble.
Bon, alors...
Pourtant il y a des vendeurs de matériel. Ils ne sont pas toujours contents d'avoir la femme dans la cuisine avec le bonhomme parce qu'ils n'arrivent pas à placer le tracteur. Hein, parce que madame a dit que ce n'était pas une dépense super utile.
Alors Jean-Baptiste, tu ne crois pas si bien dire parce que justement, on a trouvé donc, Charlotte Morel, elle est responsable communication chez Valtra et on lui a demandé de témoigner sur son quotidien en tant que intervenante dans les salons par exemple du machinisme et de voir un peu si elle a un souvenir qui est assez cocasse.
Alors en fait, j'ai pas un seul souvenir en particulier que je vais avoir. C'est plus dans mon ancien poste quand j'étais responsable marketing produit sur le secteur sud de la France. Je faisais évidemment tous les salons, tous les événements concessionnaires, etc. Je me déplaçais beaucoup en concession et donc j'étais amenée à voir des clients pas tous les jours, mais très souvent. Et en fait, j'avais souvent la question qui revenait, c'était mais vous pouvez me présenter le tracteur ? Bah oui, évidemment. c'est mon métier, je connais la machine, je fais partie de l'équipe produit qui forme les vendeurs aux produits et donc voilà, à ce tracteur. Donc oui, je suis tout à fait capable de vous présenter le tracteur, de vous le faire essayer, de vous l'expliquer, etc. Et c'est vrai que voilà, le fait d'être une femme, c'est une question qui revenait vraiment souvent. C'était notre capacité à savoir expliquer un tracteur parce que c'est une machine agricole, parce que c'est de la mécanique, parce que voilà. Donc, c'est pas un souvenir en particulier, mais c'est vrai que c'est ce qui me choquait le plus, quoi. Quand on me regardait avec des yeux, ah bon, vous pouvez me présenter la machine ? Oui, oui, je peux.
Bon, c'est clair, le monde agricole est macho, non ?
Ça va changer. De moins en moins.
Ah, de moins en moins, ça c'est une façon à droite. Pour dire que ça l'est encore beaucoup, mais un petit peu moins. Ah, il faut le dire, oui. Si c'est une réalité, il faut le dire. Moi, j'ai envie de poser une question à Hélène Cambou. Hélène, vous voyez beaucoup passer de dossiers à la Banque Populaire, puisque votre boulot, c'est ça, c'est notamment la demande de prêt. Est-ce que les projets d'investissement, quand ils sont portés ou demandés plutôt par des femmes, est-ce qu'ils sont différents selon le sexe ?
Bonjour à tous. En fait, c'est pas disons que la différence est surtout liée à l'activité, en fait. Plus que homme-femme, le sexe, on regarde un dossier, on regarde un projet, on regarde la viabilité. Et donc, c'est vraiment lié. Les femmes aujourd'hui, quand on les sont plus représentées en proportion dans le milieu équestre, maraîcher. Voilà, et c'est une des différences. Et la deuxième différence, quand on regarde les investissements des femmes, c'est leur façon de raisonner l'investissement, en fait. Et là, il y a une différence. En fait, j'ai trouvé une étude pépite qui a montré, une étude de BPI qui a montré que les femmes s'auto-censuraient un peu en matière de prêts, avec une estimation, un peu plus réaliste des besoins financiers. Et on a fait une enquête avec la Banque Populaire et BVA là-dessus, et ils ont confirmé ça, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a 75% des femmes qui ont souscrit un crédit l'année dernière, dans le pipe, quoi, un crédit pro, alors qu'un homme, c'était 82%. 63% l'envisagent, des femmes l'envisagent, alors que chez les hommes, c'est 73%. Donc, il y a vraiment une façon de raisonner un peu différente le plan d'investissement. Mais il y a aussi le côté l'installation plus tardive. Et ça joue énormément dans le raisonnement du plan d'investissement, parce que forcément, il est un peu plus long et elles raisonnent différemment. On le voit très clairement, les femmes aujourd'hui, elles ont mis plus longtemps à s'installer, elles sont allées vadrouiller à droite, à gauche, elles ont grandi en maturité, elles ont bénéficié, elles ont vu les réussites à droite, à gauche, et là je raccroche sur la confiance de tout à l'heure, elles ont pris en confiance. Et ça, et donc du coup on le voit après dans les plans d'investissement, c'est très clair.
Jean-Baptiste, c'est pas fameux ça alors, pour les agriculteurs?
Parce qu'on ne sait pas dépenser, enfin on dépense trop d'argent, c'est ça ?
Je sais pas
comment je dois prendre cette remarque, Jean-Paul, hein, mais
je sais pas quand même. Mais non, mais toi.
En tout cas.
Non, mais Jean-Baptiste. Hélène, allez-y.
Non, ce que je voulais dire, on parlait dépenses et on parlait risques. Je voulais juste dire que. Il y a une autre notion qu'on n'a peut-être pas abordée. On a dit que les femmes, elles, quand elles s'installaient, elles étaient fortes, combattantes, elles osaient. Et forcément, ce qu'on voit aujourd'hui à la banque, c'est qu'elles expriment plus que les hommes. Et donc, quand il y a un problème, elles expriment, en fait. Et elles sont aisément plus promptes à trouver des solutions pour préserver la famille aussi. Et ça, en termes de risque, il y a une différence là-dessus.
Ah, mais il y a plein de qualités.
Ça, c'est important.
Il y a plein de qualités derrière. Jean-Baptiste ?
De quoi ?
Non, mais là, du coup, moi, j'ai tout faux. C'est pas mon quart d'heure, je vais me barrer de l'émission.
C'est parce que non, mais le secret, Jean-Baptiste, c'est l'équilibre et la mixité.
Voilà. Ouais, c'est ça. Mais elles achètent moins de ferraille, c'est ça, mon truc. Alors, du coup, c'est pas bon pour l'MTN qui nous sponsorise, là, ce soir, mais... mais moi, mon point de vue, c'est que, quand même, effectivement, je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Moi-même, faisant un projet avec ma compagne... qui est venu d'un horizon différent pour et fait un projet pour diversifier la ferme. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité du parcours et qui amène des fois des fermes à se développer sur des choses qu'on ne ferait pas et une sensibilité particulière. Alors en l'occurrence, dans mon cas, c'est du circuit court et de la vente qui va s'opérer et il y a pas mal de projets qui vont dans ce sens-là. Et je pense aussi que les femmes ont une sensibilité particulière dans la relation avec le consommateur, dans la façon de vendre son produit, c'est un peu caricatural, peut-être parce qu'elles sont plus en posture, elles, d'être acheteuses, pas l'organisation familiale, voilà. Mais, et ça, c'est quand même bon pour l'agriculture. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure avec les vraies femmes agricultrices ou pas, hein, c'est un peu provoque, c'est... On a besoin justement que, à mon avis, le monde agricole, on ait des femmes qui s'émancipent, qui font des projets, qui apportent un coup de frais à l'agriculture et pas simplement qu'ils soient là au titre pour dire voilà, on gère une ferme et en réalité, c'est le mari qui fait tout parce qu'en fait, c'est pour finir la retraite parce que quand même 60% des femmes qui s'installent ont plus de 60 ans. Enfin, dans les chiffres, c'était ça dans les derniers articles. Donc, c'est les femmes qui entreprennent, qui sont, à mon avis, hyper intéressantes, sans dénier les autres, hein, mais qui sont intéressantes pour donner un coup de boost à l'agriculture. Quoi.
Encore faut-il qu'elles trouvent leur place pour pouvoir mettre ce coup de boost dans l'agriculture.
Mais comment tu crois qu'elle... Pourquoi elles ne trouveraient pas leur place, du coup?
Parce qu'elles pourraient ne pas la trouver parce qu'elles sont découragées. On les remet une fois en place, deux fois en place, trois fois en place, et il peut y avoir du découragement en disant « Ok, bon ben, la ténacité, elle a une limite pour moi, la limite de la patience ou de l'impatience. »
Dans ce cas, il faudrait peut-être penser à se regrouper. Nous, c'est ce qu'on a fait en Ille-et-Vilaine, on s'est regroupé à plusieurs et on s'entraîne. Ça aide énormément. Enfin, moi, personnellement, nous, notre ferme, c'est une ferme, elle est gérée que par deux femmes. Nos conjoints ne sont pas du tout en ferme, dans la ferme. Et on a monté un collectif, des femmes ont monté un collectif et on travaille ensemble.
Que des femmes agricultrices ou d'autres femmes entrepreneurs aussi?
Non, alors là, on n'est que sur des femmes agricultrices.
D'accord. Okay.
Enfin, il y a aussi des hommes agriculteurs qui font partie de la commission. On n'est pas que des femmes, mais on est là tous dans le sens d'aider les femmes et de les aider à s'émanciper et de libérer un peu la charge mentale pour s'entraider, quoi.
Alors,
ce que je voulais ajouter.
Allez-y.
C'est que dans les 5 ans qui viennent, là, on a un renouvellement de génération qui arrive et là, justement, il y a la place. Tout le monde, hein, et notamment pour les femmes. Et là, je veux dire, là, le point de départ, parce qu'on a des témoignages de jeunes filles qui cherchent des stages, des maîtres d'apprentissage, et il y a encore le frein du fait que ce soit une fille. Elle a du mal à trouver un stage ou un maître d'apprentissage. Et chez nous, il faut qu'on fasse des efforts aussi pour accueillir toutes ces jeunes-là. Il faut qu'on essaie de aussi montrer que le métier est accessible parce qu'il y a moins de pénibilité. Et je pense qu'il faut qu'on communique sur notre métier, qu'il est accessible aussi aux femmes. Enfin, nous, c'est un peu notre... on a un renouvellement de génération qui arrive et ben voilà, je pense que là, il y a un boulevard pour les jeunes filles, les jeunes femmes ou celles qui veulent changer de refaire une carrière différente après une expérience professionnelle. Enfin, je pense qu'on a besoin d'avoir ma proposition, ce serait d'avoir créer une synergie, mais intergénération, quoi. Faut qu'on essaie d'avoir une dynamique entre nous et qu'on soit moteur, dont celles qui ont un peu plus d'expérience témoignent ou accompagnent.
En fait, ce que vous dites, En fait, ce que vous dites, vous rejoignez la première proposition, c'est créer un lieu de coworking, mais en rajoutant du mentoring, quoi, en fait. Des coachs et des gens, voilà, de l'expérience et des agricultrices et des agriculteurs qui peuvent être mentors un peu.
Ouais. Il faut, si je peux me permettre, c'est
ouais.
La profession.
Allez-y, on
si je peux me permettre, c'est Marie-Laure Hustache d'Agridé qui parle. Je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les femmes n'ont plus envie d'être secondes. Je trouve qu'en agriculture, pendant des générations, les femmes étaient la seconde. Il serait temps qu'elles passent en première ligne. Alors, pas par le destin, parce que j'écoutais aussi la proposition sur le décès du conjoint. On se retrouve subitement confronté à tout ça en première ligne. Mais effectivement, le coaching, la formation et acquérir des nouveaux réflexes, c'est super important. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être avoir un profil LinkedIn, se mettre dans la peau d'une chef d'entreprise agricole qui a plus de visibilité, qui dit ce qu'elle fait, qui se montre, qui le raconte. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, je pense aussi aux femmes chefs dans le monde de la gastronomie qui bien souvent se cantonnent aussi au rôle de seconde. Et là, c'est en train de changer aussi en ce moment, d'ailleurs.
Bon, là, on a une question de Manu. Alors, je ne sais pas si vous la lire ou pas. Allez, je la lis. Manu, donc, qui nous envoie une question en disant « Les femmes d'agri font aussi le frein, des fois, pour ne pas prendre d'apprenti ou d'ouvrier ou d'associé. Est-ce que c'est vrai, ça, sur le terrain ?»
C'est d'apprentie féminine, alors.
Oui, je ne sais pas. C'est pas précisé.
Non, enfin, moi, je pense qu'on a à cœur de renouveler, enfin, d'apprendre aussi, de transmettre. Enfin, je pense que c'est des valeurs qu'on transmet. Nos connaissances, on a besoin de transmettre. Je pense que justement, si on accueille pas les jeunes, on ne peut pas valoriser et transmettre nos connaissances.
Alors,
pour moi, c'est une richesse.
On va passer.
Justement, là-dessus. Ah ben, vas-y, Jean-Paul.
On va passer à un vrai sujet, puisque justement, on va demander à Marie-Laure qui a regardé un peu dans les chiffres. Alors, c'est vrai, on le sait, dans tous les secteurs confondus, on a en gros 20% d'écart, en moyenne, je dis bien, entre les femmes et les hommes. Est-ce que dans le secteur, on va dire, para-agricole, les salariés, est-ce qu'on est moins payé quand on est une femme que quand on est un homme? Marie-Laure.
Merci Jean-Paul. Donc, c'est donc Marie-Laure Hustache d'Agridé qui parle cette fois-ci. Effectivement, l'Observatoire des métiers de l'agriculture du CIRPA, chaque année, étudie un petit peu notamment les salaires entre les hommes et les femmes. Alors, il y a toujours un écart qui est moins important quand on passe la quarantaine. Tiens, c'est bizarre. Voilà, il y a peut-être moins d'enfants à gérer, on se consacre plus à sa carrière. Et là, les salaires se rejoignent entre hommes et femmes. Mais bon, c'est vrai que c'est bien connu, hein. Il y a toujours cet écart, mais on en a parlé dès le début de l'émission, hein, de tout ce qui constitue la vie d'une femme, ça peut être ou pas, mais ça peut être la maternité, la vie professionnelle, il faut jongler avec tout ça, Jean-Paul. Donc voilà, ça concerne autant les agricultrices que les femmes dans tous les métiers.
Et c'est vrai d'ailleurs qu'on a montré que c'était pas facile d'avoir des enfants et puis en même temps de donner le biberon dans le tracteur. On l'a montré dans l'émission Power Boost du week-end dernier. Ben voilà, les tracteurs, est-ce qu'ils ont vraiment été pensés pour les dames aussi? Pas vraiment, on a l'impression, pas pour l'instant.
Oui, mais il y a quand même des choses.
Ah, on vous entend pas bien. Jean-Baptiste, les tracteurs, pensez que pour les hommes?
Ouais, alors oui, mais alors les hommes aussi peuvent avoir leur enfant dans la cabine, hein. Moi perso, j'emmène mes petits aussi. Mais jusqu'à c'est l'ergonomie en fait du matériel qui évolue. Je suis pas sûr qu'ils aient forcément tous intégré cette notion de family cab ou de se dire qu'il faut des vraies places. Mais ça évolue quand même parce que le siège passager a de plus en plus de place. Et c'est pas comme moi j'ai connu de passer des heures quand t'es gamin assis sur la boîte à outils à côté de ton père dans la cabine de moissonneuse. C'est un peu plus confortable quand même. Même si que quand le gamin de 3 ans, quand il s'endort, il se tape le carreau sans arrêt, ça pourrait peut-être régler le truc.
Et nous, on prévoyait un coussin, Jean-Baptiste. On mettait un coussin pour notre fille.
Au fil des générations.
Alors, moi, cette semaine.
Ça s'améliore.
Cette semaine, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une image où une femme emmène le maxi-cosy dans la salle de traite. Le bébé a l'air vraiment petit, avec une protection dessus. Et elle dit, ben, quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix.
Marie-Laure.
Ça me permet de dire là-dessus, c'est que c'est vraiment... Enfin, moi, je pense qu'on a un congé maternité qu'on a obtenu qui permet justement les premières semaines de se faire remplacer sur l'exploitation, c'est une question de santé. Et il y a eu une belle évolution sur ce point-là. Et je pense que faut prof, c'est une question de santé. Et après, bon, voilà. C'est parfois difficile. Mais,
on arrive.
Et quant au matériel, moi, j'ajoutais que toutes les évolutions du matériel, l'attelage plus facile, ça rend service aux femmes, mais à ces messieurs aussi. Ça, il faut le rappeler.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est alors, on a 6 minutes pour aborder les derniers sujets, et notamment Marie-Laure. Alors, est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres secteurs d'activité? Et est-ce qu'il y a vraiment des mouvements féministes qui se développent en agriculture aujourd'hui?
Des réseaux féminins dans les secteurs agricoles.
C'est différent de mouvements féministes.
Oui, il y en a. Alors, on a comme adhérent le mouvement Women in Agribusiness, qui est un réseau de femmes qui travaillent toutes dans les secteurs agricoles, agroalimentaires, agro-industrie. Donc, c'est d'origine anglo-saxonne. Mais ils ont voulu se réunir. Malheureusement, il y a eu la Covid, mais ils devaient se réunir à Paris au mois de juin. Ils proposent du coaching, des conférences. Hein, Hélène, tu en parlais, du coaching, c'est important pour reprendre confiance et puis réseauter entre femmes. Voilà, Women in Agribusiness, on peut les suivre sur LinkedIn et sur Twitter, ils ont déjà 2354 abonnés, ils sont donc adhérents au sein de notre think tank AgriD.
Et Marie-Laure,
effectivement, le
vous en faites partie,
féminin, c'est très important.
Et Marie-Laure, vous en faites partie?
Oui, ben, Marie-Cécile Damave en tout cas est en lien avec ce réseau et ils sont adhérents à AgriD, donc je pense que voilà, on les suit de près. Il y a plein de réseaux féminins et on a parlé aussi de solidarité pendant l'émission, c'est très important. Se former, apprendre à se mettre en avant et avoir des bons réflexes. Je sais que Jean-Baptiste aime bien ce mot, avoir les réflexes. Alors il faut que les femmes en agriculture aussi aient ces réflexes. À tous les niveaux.
On a l'impression qu'on est un peu en retard quand même par rapport au reste de la société là-dessus.
Dans l'agriculture,
oui, dans la prise en compte, dans les perceptions, dans le fait d'en parler. Moi, c'est la première émission qu'on voit vraiment qui aborde les sujets à fond.
Nous, on est très attachés à la communication sur le métier justement d'agricultrice.
Mais c'est
différent. Justement, c'est parce que nos collègues agricultrices, elles n'osent pas assez parler de leur métier. Et pourtant, nous, on fait des formations, on a tout un réseau qui les accompagne. Mais il faudrait être constamment. Je pense que c'est.
Après, je pense qu'il faudrait aussi réseauter, pas que intra-agriculture, mais il y a des réseaux féminins très importants dans d'autres métiers. Et il faudrait se raccrocher aussi parce que c'est important de communiquer, mais pas que entre nous. Il faut vraiment rééduquer tout le monde. C'est important. Quoi.
Élodie, votre avis
du bâtiment, elles ont les mêmes problématiques que nous.
Élodie, vous en pensez quoi?
Moi, je pense que nous, on fait partie avec la commission de la place des femmes en agriculture biologique. La commission qui a été créée dans le 35, on a créé, par exemple, un truc bête, hein, mais une formation tracteur, mais cette fois sans les hommes, pour que les femmes arrivent à se libérer et à oser poser les questions sur un tracteur, pour comment atteler, comment ça fonctionne. Et je sais que la première session a été très réussie. Les filles qui ne savaient pas du tout conduire le tracteur, on dit « enfin, on a osé », parce que devant les hommes, on n'oserait pas dire qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'ose pas faire.
Non, mais j'y crois pas, mais c'est incroyable ça. Il y aurait Jean-Baptiste au milieu, hop, vous poseriez moins de questions.
Mais non, mais pas que Jean-Baptiste. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les femmes ont peur de dire je veux apprendre, tout simplement.
Moi, je veux bien être formateur, hein, s'il faut.
Mais là, on en reparlera alors, il n'y a pas de problème.
D'ailleurs, le formateur, c'est un homme ou une dame?
Ah là, c'était un homme.
Ah bon, oui.
C'est
bon. Non, c'est bien.
Bon, vous savez qu'il nous reste plus que 1 minute pour finir l'émission. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, très très importantes, et il faut que je vous les dise comme ça. Vous savez, les tontons farmeurs, c'est parti d'une idée avec l'association Co-Farming. On s'est dit, bon, allez, il faut créer un média sur lequel il faut aller à fond sur les sujets, pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat et monopoliser le plat, aborder les sujets même avec les tabous et puis le dire très clairement, comme vous l'avez fait d'ailleurs ce soir. Et on s'est dit, on va lancer une saison, c'est-à-dire 12 émissions pour encadrer un peu la moisson. On a débuté avant la moisson et puis là, on finit à la fin de l'été. Et effectivement, c'était une belle idée, je trouve. Et merci à l'association Co-Farming et merci à nos partenaires partenaires, donc le groupe Agreca et la Banque Populaire. Donc merci Hélène. Et puis merci aussi à Lemken qui nous supporte sur cette émission. Et Virgile qui n'a pas pu participer parce que je sais qu'il est un petit peu souffrant. Mais sinon, il serait parmi nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à nos partenaires, on a pu créer ces 12 émissions. Et puis vraiment, on y a été. On a abordé tous les sujets. Vous rappelez la guerre du foncier. On a parlé hashtag balance ta ferraille pour ces agriculteurs qui investissent peut-être trop dans le matériel. On n'a pas eu peur de bousculer les idées. Et puis, on est arrivé au terme des 12 premières émissions de cette première saison. Alors, si jamais vous avez entendu, il y a des salons, malheureusement, qui ont été annulés à cause du Covid. Si vous êtes annonceur, si vous aimez bien cette émission, qui a de plus en plus un public large et certains annonceurs donc, qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous donner un petit peu de sponsoring et à nous rejoindre. C'est une vraie famille, de façon à pouvoir continuer. Et comme ça, on pourra se retrouver chaque mardi pour aborder d'autres sujets. Et je suis sûr qu'il y a plein de sujets tabous à aborder. Alors, on s'était fixé donc cet objectif. Je ne peux pas vous dire si on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après. Dans tous les cas, on prend rendez-vous parce que je suis sûr que ça va continuer. Et si vous voulez prendre contact avec nous, c'est contact@tvagri.info notamment ou via le site du co-farming. Je vous remercie à toutes, surtout nos invités et à notre agriculteur de la Marne, Jean-Baptiste, d'avoir assuré donc cette mission compliquée dans le cadre donc de cette thématique. Le girl power donc va-t-il sauver l'agriculture française? Est-ce que les femmes ont des atouts en plus pour sauver l'agriculture française? Et quand on a vu que Christian Lambert est aujourd'hui au niveau européen, on se dit qu'il y a peut-être des choses à faire. Effectivement, merci à vous toutes et merci à vous tous qui nous écoutez sur notre chaîne YouTube Power Boost. Et je vous retrouve bien sûr très prochainement. Et je vous souhaite bien sûr une excellente soirée. À bientôt. À bientôt et merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci Jean-Paul.
Merci.
Merci.
Merci à vous. Jean-Paul.